J'ai devant moi le chanteur français Yves Dutheil, qui est de passage à Pondichéry pour quelques jours, qui va donner d'ailleurs un concert à l'annexe du Satsanga 54 avenue de la Bourdonnais, 54 la Bourdonnais Street, comme vous préférez. Vous m'avez dit que vous étiez venu à Pondichéry déjà il y a quelques années. Je voulais savoir quel était le souvenir que vous gardez déjà de ce premier voyage.
D'abord, la rencontre avec les Indiens, qui est une rencontre tout à fait marquante, parce que l'image qu'on a de l'Inde de l'extérieur est une image un petit peu de carte postale, c'est une image un peu stéréotypée. Et puis quand on rencontre les gens, on s'aperçoit qu'on a affaire à des gens plein de contradictions et très attachants. Ce sont des gens qui sont à la fois extrêmement doux et qui peuvent se montrer effectivement aussi assez pugnaces et violents, le cas échéant. Ce sont des gens qui vous accueillent à bras ouverts avec un sourire extraordinaire, avec un petit signe de tête qui est une sorte de signe de bienvenue. Et quand on repart de l'Inde, on laisse un morceau de son cœur ici. Et donc, c'est l'impression, la première impression qui nous est restée de notre premier voyage en Inde, qui était en fait un voyage dans le Kerala. La première vision de ce voyage dans le Kerala, c'était à Pâques, et c'était le sortir de la cathédrale. C'était les Indiennes avec les saris éclatants et les hommes en blanc. Et cette limpidité, cette vision de... On aurait dit sortie d'un conte de fées, tellement elle était d'une pureté étonnante. Et ce catholicisme mêlé au Kerala avec le côté communiste qui était très étonnant. Et puis ensuite, on est allé ici à Pondichéry, et c'était dans des circonstances évidemment tout à fait différentes. C'était un an après le tsunami. Or, un an avant, avec Lionel et Martine, qui sont respectivement le frère de mon épouse et son épouse, on a organisé une action en direction des Indiens les plus démunis, des victimes les plus défavorisées du tsunami. Donc ça faisait un an qu'on était en lien avec les Indiens via Lionel et Martine. Et cette impression, je vais vous la résumer en quelque chose de très court.
Résumer, oui.
Lionel et Martine, à la suite du tsunami, ont, en plus de l'action qu'ils mènent, adopté deux enfants. Et les gens au marché, quand on se promenait avec les petits, se tournaient vers nous, ils regardaient les petits, ils nous regardaient et ils me disaient « Tsunami ?» On disait « Oui ». Et ils nous prenaient les deux mains et ils nous disaient « Thank you ». Et c'était quelque chose qui nous a bouleversés, qui nous a marqués. Et cet accueil des Indiens face à cette solidarité internationale fait que on a le sentiment qu'il y a eu la vague du tsunami, il y a eu la deuxième vague du tsunami, et puis la troisième vague, qui est une vague d'humanité, de solidarité.
Après toutes ces années, vous êtes de retour aujourd'hui en Inde, et je voulais savoir quelle était la raison qui vous a fait retourner. Est-ce que vous avez une raison spéciale pour laquelle vous êtes revenu après toutes ces années?
Oui, on a une raison spéciale. D'abord, la raison familiale, c'est-à-dire que de toute façon, on serait venu rendre visite à Lionel, à Martine, à mon beau-frère et à ses épouses. Et la deuxième raison, c'est qu'on a beaucoup travaillé entre-temps et que la première aide qu'on avait apportée au niveau du tsunami aux familles les plus démunies a évolué. De même que la situation ici a évolué, c'est-à-dire qu'on a vu fleurir les bateaux, on a vu beaucoup de villages qui se sont équipés. Et finalement, la pêche est redevenue pour beaucoup de familles un avenir de misère, parce qu'il y avait de plus en plus de bateaux, de moins en moins de poissons, le cours du poisson s'effondre, et surtout un phénomène qui nous a frappé à travers la vision qu'on pouvait en avoir de loin, mais avec des yeux qui regardaient de près, c'est que les enfants sont déscolarisés, c'est que le gros problème, c'est l'avenir de ces enfants qui n'ont pas d'école ou qui ne vont pas à l'école. Et donc l'action de notre association s'est réorientée vers la formation, vers la scolarisation. Et l'idée nous est venue, avec l'argent collecté, puisque on s'est organisé comme ça. Nous, on a une association en France qui collecte l'argent. Lionel et Martine ont une association en Inde qui agit. L'idée nous est venue d'aller encore un peu plus loin et de construire une école.
Ah, d'accord.
Et cette école, elle est pratiquement finie. Mm-hmm. Elle va être inaugurée demain. Demain, nous serons le 4. Et elle fonctionnera pour la rentrée scolaire de juin prochain, c'est-à-dire la rentrée scolaire indienne, pour accueillir d'abord peut-être 75-100 enfants, puis 200 à pleine capacité en internat. Voilà le projet qui nous ramène ici et cette idée de marquer l'inauguration de l'école avec peut-être un concert-événement, fusion avec des musiciens indiens. Cette idée de solidarité qui se traduit musicalement par une fraternité et par une fusion musicale.
Donc, dans le concert que vous allez donner, vous allez jouer avec des musiciens indiens ou un seul musicien indien ?
Eh bien, jusqu'à tout à l'heure, je jouais avec un seul musicien indien. Et puis, un très, très, très bon flûtiste dont je vous dirai le nom dès que j'aurai sorti, parce que je viens de le rencontrer, donc je ne connais pas encore très, très bien son nom. Il a pris sa flûte en bois. Il m'a dit, je voudrais que vous écoutiez le son de ma flûte sur vos chansons. Je lui ai dit, bah, écoutez, oui, bien sûr, pas de problème. Et il a commencé à jouer et je lui ai dit, est-ce que vous êtes libre demain? Il m'a dit, oui, je pense que je serai libre demain et je vais essayer de me débrouiller. À mon avis, ça va le faire parce que ça s'est tellement bien passé. Il s'appelle Surya Neel et il joue merveilleusement bien. Donc on va jouer aussi ensemble et peut-être aussi un joueur de sitar qui va se joindre à nous. Enfin, tout ça est une fête qui s'organise au jour le jour, qui est un peu improvisée, qui se met en place un peu avec le miracle de l'amitié, de la solidarité, de ces rencontres de hasard, qui ne sont peut-être pas tout à fait un hasard, et qui sont provoquées les unes par les autres. D'accord. Un peu comme nous nous rencontrons aujourd'hui.
Exactement. Je voulais savoir dans ce concert, quelles chansons vous allez interpréter en particulier. Est-ce que c'est les chansons de votre dernier album, ou bien est-ce que ça va être une rétrospective de toutes vos chansons qu'on connaît bien ?
C'est un mélange de chansons du dernier album, et de chansons plus anciennes. On a vraiment voulu faire un éventail avec des points de repère et puis apporter quelque chose de neuf, parce que c'est un peu ce qui se passe en France beaucoup, c'est que le public connaît mes chansons du passé, mm-hmm. et sur la foi de ce qu'il connaît, il vient découvrir les chansons d'aujourd'hui. C'est un peu ce qui va se passer au Satsanga.
D'accord.
Mais avec une couleur un peu particulière, puisqu'il y aura quand même une couleur particulièrement indienne.
Et le rapproche de la musique occidentale par rapport à des musiciens français ou bien des musiciens européens avec lesquels vous avez l'habitude de jouer, est-ce que vous sentez une différence ou bien est-ce que vous sentez que ça se compare ?
Absolument, ça se compare. Je vois comment on a mis au point le dernier concert, celui qu'on a présenté à Paris avant de partir en tournée avec. Et on était avec deux musiciens qui sont piano, contrebasse, très classique. Et là, le concert s'est mis en place très très rapidement avec ces deux musiciens français. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait cette même complicité avec Manoche Bardane qui s'est instaurée, mais quasi instantanément. C'est-à-dire, en moins d'une heure, on avait déjà 5 morceaux qui étaient en place et on a fait le reste aujourd'hui. Franchement, ça fonctionne instantanément. C'est incroyable. C'est vraiment une fusion. Je joue, il m'accompagne. Et puis, je lui ai proposé qu'on fasse aussi la réciproque. Et il y a une fraternité musicale avec un langage commun, au-delà des cultures, au-delà des traditions, au-delà des sons. Et ça fonctionne extraordinairement, je trouve.
Très bien. Je vais peut-être passer la parole à Lionel pour qu'il nous explique un peu plus en détail son projet d'école et qu'il nous mette au courant de la manière dont ça s'est monté, en fait.
Non. L'association, elle est née de façon spontanée au départ. En fait, on ne s'est pas vraiment posé de questions. On est porovilliens, on habite Pondichéry. Et il y a un certain nombre de gens qui ont été sensibilisés pour des raisons diverses et variées à la catastrophe qui s'était passée en Inde. Et plus ou moins en franc-tireur, on a essayé d'aider comme on pouvait. Assez vite, on s'est regroupé à un petit noyau. Et puis on a vu l'urgence, on voyait que il y avait des difficultés pour le gouvernement indien d'agir partout en même temps. On avait nos relais indiens, puisque après cette année de présence ici, forcément, on avait suffisamment de réseau amical indien tamoul pour trouver des situations complexes. Donc on a monté ça. En même temps, on faisait face à à l'angoisse de nos familles françaises, mais tous. Et puis dès qu'on les a rassurés, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils ont envoyé de l'argent, des mandats, et ça nous a permis de monter enfin, notre petit noyau tout bête comme ça. De mémoire, je crois que c'est 450 familles indiennes de villages qui étaient dans l'attente des aides immédiates. On a reçu un kit pour tenir un mois. Donc de quoi manger, mais aussi parce qu'ils avaient perdu leur gamelle, ils n'avaient pas de couverture, ça a l'air bête, mais en décembre il fait froid pour eux, en début janvier. Donc des toiles pour pas avoir l'humidité du matin, pour faire des tentes basiques, le temps d'attendre que la structure indienne, qui a bien joué, comme fait, se mette en place. Et puis, il se trouve que moi je construis des bateaux. Alors on s'est dit, c'est quand même. Bon, moi j'aurais été médecin, j'aurais soigné, j'aurais été infirmière, j'aurais fait des piqûres, je construis des bateaux. Donc on a tout de suite pensé bateaux, parce que c'était essentiellement les pêcheurs qui avaient été touchés. Tant que constructeur de bateaux, j'ai forcément un réseau amical d'architectes, d'experts maritimes. Enfin, bon, j'ai mis tout ce petit monde-là sur le pont. Et puis on a commencé à définir des barres pour la mer. L'idée, c'était en fait de réunir les fonds et de leur faire construire. On ne voulait absolument pas pratiquer la système. Et puis on a eu la chance, quelque part, un jour, eux aussi d'ailleurs, de découvrir qu'il y avait des gens dont on ne s'occupait pas, parce qu'ils ne faisaient pas partie de la bonne caste, donc quelque part le gouvernement ne les a pas aidés. Parce qu'ils étaient en dehors des nationales, c'est les pêcheurs de lagunes et de rivières, les pêcheurs de plans d'eau. Alors, ils étaient moins spectaculaires parce que personne n'est mort. La mer est montée, elle a fait monter le niveau de la lagune ou le niveau de la rivière, elle a embarqué les huttes, elle a embarqué les gamelles, elle a tout embarqué, ils sont restés sans rien. Ils ont perdu leurs bateaux, parce que les bateaux qui sont des troncs d'arbres sont montés sur la grève tous les soirs, démontés, parce qu'on ne peut pas monter les quatre troncs d'arbres, les quatre ensemble, parce que ça se gorge, c'est gorgé d'eau et c'est trop lourd. Donc tout ça est parti, ils n'avaient plus rien. Alors on a décidé de les aider eux, toujours sur la même base, c'est-à-dire qu'en fait, on a réuni des fonds pour acheter le contreplaqué, la résine, et on a, avec mes copains, défini une barque qu'ils pouvaient construire eux-mêmes après quelques jours de formation. Alors, on n'a pas toujours réussi aussi bien qu'on espérait, mais on a aussi essayé d'intégrer la collectivité, les réseaux familiaux et les fermes. On en est arrivé à émettre une charte où en fait, personne n'était propriétaire des bateaux qui étaient construits par les pêcheurs eux-mêmes. C'était en fait une association, un self-help group de femmes qui étaient propriétaires des bateaux, qui les louaient aux pêcheurs, ainsi que le matériel de pêche, parce qu'on fournissait aussi des filets, trois filets par barque, etc. Et puis ça leur permettait, on ouvrait un compte en banque, et puis ils avaient un projet collectif, et nous on multipliait par deux. S'ils avaient réussi à mettre 10 000 roupies de côté, nous on rajoutait 10 000 roupies aussi. Donc ils pouvaient accéder à avoir un projet. Bon, c'était très difficile, et je ne peux pas dire qu'on ait réussi à tous les coups, mais on a quand même réussi à faire un certain nombre de choses. Et puis on a commencé aussi à s'inquiéter un petit peu de la formation professionnelle. Mais là, c'est un travail très complexe et on y reviendra plus tard quand on aura les épaules un peu plus solides. Alors historiquement, maintenant, sur le plan de l'école, à Pondichéry City, il n'y a pas de miracle. La moitié des Français, c'est des expatriés qui relèvent de l'éducation nationale ou du consulat. Tout de suite, comme on a eu des profs, ils sont impliqués dans les parrainages, impliqués dans les problèmes scolaires, dans les problèmes pédagogiques. Moi, à vrai dire, je voulais descendre un petit peu loin parce que j'avais des problèmes de contrat à les signer, de contrat entre guillemets, de shake hand, de contrat moral à les signer dans les villages. Il fallait que je surveille la qualité de ce qui était fabriqué. Et puis petit à petit, j'ai commencé à regarder, puis je me suis dit en fait que la meilleure façon d'aider, c'était à la base. Une fois qu'on avait aidé à la survie, que la famille était pérennisée et avait de quoi vivre, de quoi redémarrer, on va peut-être s'occuper aussi un peu des enfants. Ça a été un petit peu aussi défini par l'éclatement du groupe, parce que par définition, quand on travaille avec des expatriés, ils sont des mutations. Puis à la fin, le gars qui n'est pas expatrié, qui n'est pas fonctionnaire, il se retrouve un peu tout seul. Et là, on s'est dit, oui, il y a un énorme travail pédagogique à faire, il y a un énorme travail scolaire. Et là, on est parti sur une démarche peu usante. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas d'une pédagogie indienne, certainement pas. Et on ne voulait pas forcément d'une pédagogie française non plus. On a fait toute une recherche en ce qui concerne la pédagogie et les pédagogies dites alternatives en France. Ce sont des dossiers extrêmement complexes, très lourds. Et un peu par hasard, on a découvert que le gouvernement indien, le gouvernement central indien, mettait en place, essentiellement au Tamil Nadu, qui sert un peu d'état pilote, une méthode pédagogique extraordinaire, qui est le fondement, dont le fondement est la responsabilité, l'autonomie, l'indépendance et l'apprentissage par la pratique, qui s'appelle la méthode ABL, qui découle très directement de la philosophie de Krishnamurti et de la fameuse école qui a été montée à Rishi Valley, mais évidemment avec les moyens du gouvernement, donc un peu réduite. Et on dit pourquoi on est allé chercher à 7000 km, 12000 ou 15000 km qui étaient à nos portes. Et donc on est parti sur cette idée. Bon, la deuxième détente, c'est que, en fait, quand on s'est aperçu des moyens que se donnait l'État du Tamil Nadu, enfin, le gouvernement du Tamil Nadu, qui, je crois, a bien pris conscience de son retard au niveau national, de son retard à l'alphabétisation, je crois qu'ils ont décidé de mettre le paquet. Et c'est un rendez-vous avec le collecteur de Cadalour. Très honnêtement, le collecteur de Cadalour, il m'a dit « Donnez-moi le fric, je sais comment faire, il n'y a pas de problème. J'ai plein d'écoles, il n'y a pas de ciment par terre, vous allez me payer du ciment. J'ai énormément de classes où il n'y a pas de petits bureaux. Il me faudrait des écritoires parce que les gosses, ils ont mal aux reins quand ils écrivent directement par terre. Puis je lui dis qu'on n'était pas vraiment là pour ça. Il nous a dit bah, « Oui, vous n'êtes pas très utile parce que bon, nous, on a des programmes. » Mais par contre, il y a des trucs que nous, on ne sait pas faire, on ne peut pas, parce que c'est compliqué, mais je ne peux pas faire. C'est les tribus, parce qu'ils sont éclatés, parce que c'est des petites, mais on ne peut pas monter une école, ils ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont nomades, ou semi-nomades. Ils sont bloqués quand ils ne sont pas vraiment nomades, parce qu'ils sont rejetés par la collectivité des autres enfants, ou les familles rejettent les enfants, parce que c'est encore une caste inférieure. Ils sont coincés aussi parce que le dialecte n'est pas du tamoul pur et dur, c'est plutôt un dialecte du nord. Et le langage qu'ils pratiquent en famille n'est pas le tamil. Donc ils ont plein de raisons d'être rejetés. Et puis dernier point, il y a 12 familles ici, 14 là, 9 ici. Et donc c'est très compliqué pour le gouvernement. Il a dit, est-ce que c'est un difficile challenge? Est-ce que ça vous tente? Plus c'est difficile, plus ça nous tente. Donc, banco. Ça tombait passablement dans l'ennui, parce qu'au niveau du budget, si c'est une école en résidence, ça multiplie mon budget par 3. Bon. Il va falloir se retrouver les manches et trouver le financement. Voilà tout. C'est l'une des raisons pourquoi nous qui avons toujours travaillé comme des petites fourmis dans notre coin, qui ne sont jamais publiées, ne sont jamais faites parler de nous, on a un petit peu intérêt maintenant à se faire connaître, parce qu'il faudra qu'on nous aide, parce qu'on sera pas, ce ne sera pas suffisant. Il faudra bien qu'on ait des financements pour pouvoir payer un toit et à manger à terme à 200 enfants.
200 enfants?
Oui, à terme.
Et là, vous allez commencer avec combien d'enfants?
50 sur 75, vraisemblablement.
D'accord.
Donc là, on va travailler au départ essentiellement avec Marie Kourouva. Les gypsies. Hein. Pour l'instant, notre idée, c'est déjà de s'occuper des enfants qui ne sont pas scolarisés. Voilà le débat.
Bien, j'espère que demain soir, il y aura beaucoup de monde qui aura été sensibilisé.
Et il y aura du Narikouba qui vient bon jouer de la musique.
Et en plus de ça, c'est de l'excellente musique, puisque c'est Yves Dutel qui joue avec des musiciens indiens de grande qualité. Donc, je pense que vous n'aurez pas de mal à rameuter pas mal de monde. Il y a combien de places dans votre salle, vous prévoyez?
C'est extensible, on poussera les murs. Hein.
Eh bien, il faut, je crois.
J'espère qu'on sera amené à pousser les murs et qu'il y aura déjà assis sur le mur, justement, pour regarder. Bon, on est un petit peu pénalisé pour le fait que c'est les vacances scolaires. Donc, disons que la population francophone de Pondichéry n'est pas en totalité là. Mais d'un autre côté, à la limite, quand Yves et Noël sont arrivés, on ne savait même pas qu'on allait organiser un concert. Alors, c'est pas si mal après tout. Et à ce propos, je voudrais remercier tous les gens qui nous ont aidés. Je le referai demain. Ce qui est assez extraordinaire dans ce concert, c'est que à 99%, tout est en bénévolat, que tout a été fait avec des gens qui participent avec la plus grande générosité de cœur à l'aventure.
Voilà. Vous savez que vous parlez maintenant pour Auroville Radio, donc j'aimerais, Yves, que vous me disiez déjà comment vous avez entendu parler d'Auroville, qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que c'est, quelle est votre idée de cette histoire?
Pour moi, Auroville est une entité unique, une tentative réussie d'autonomie à la fois économique, culturelle, une communauté, mais une communauté ouverte, une façon de vivre qui tend à prouver quotidiennement que c'est possible, que tout est possible, et qu'on peut vivre librement dans sa tête en essayant de gommer les contraintes économiques, en les regroupant, en faisant une espèce de communauté d'intérêts, qui soit en même temps une façon de vivre, une façon de penser la liberté, qui soit organisée. Et c'est très étonnant. C'est pour nous, venant de France, on a l'impression que c'est à la fois une époque révolue et une vision d'avenir. Une époque révolue parce que ça ressemble fort à cette vie un peu rêvée des années 70, quand beaucoup sont partis vers l'Inde parce qu'il y avait la spiritualité, parce qu'il y avait cette façon de vivre différente, et puis cette musique et cet esprit. Et en même temps, parce que ça a tenu le coup et que 30 ans plus tard, on retrouve une communauté parfaitement saine qui vit en... je dirais pas en autarcie, parce que c'est ouvert, donc c'est pas une autarcie, c'est une espèce de communication, mais qui se rassemble et qui s'ouvre en même temps. Je trouve ça assez étonnant, assez séduisant. Et voilà, les Auroviliens sont des gens à part, sont des gens en même temps intégrés, c'est un peu tout en même temps. On voit quelque chose d'un peu oublié et très présent en même temps. Vous vivez dans un cadre qui est très beau, qui est très, très aérien, très spacieux et très étonnant.
Est-ce que vous avez lu quelques livres de Maire et de Sri Aurobindo, ou bien vous avez une approche d'Auroville comme ça, très matière, c'est-à-dire venir dans l'endroit et regarder comment ça se passe?
C'est plutôt venir dans l'endroit et regarder comment ça se passe. D'accord. Rencontrer les gens, j'ai pas trop de vision théorique. Je ne connaissais pas Auroville avant d'y venir, donc pour moi, ma première vision d'Auroville, c'est un contact, c'est pas une lecture. Et puis le premier contact, c'était la scolarisation des enfants à Auroville. C'est ça, c'est des méthodes qui sont assez proches de ce que cherchaient Lionel et Martine pour les enfants d'ici. Et c'était notre première approche. Et d'ailleurs, la première chose qui nous a amené à Auroville, c'est voir comment fonctionnait l'école. Parce que je crois qu'on ne peut pas faire des choses pour les autres sans voir comment ils vivent. Et la plupart des échecs en matière humanitaire sont des erreurs de casting, des erreurs de tir, qui sont dues à un manque de connaissance du terrain. Or, on a eu la chance ici d'avoir des ambassadeurs et des gens qui connaissent les vrais problèmes et l'évolution des problèmes. Donc, on a voulu voir de nos propres yeux. C'est comme ça qu'on est venu à Auroville la première fois.
Nous avons demain, juste une petite aparté, une conférence justement là-dessus avec Antonella qui a fait des études sur les écoles d'Auroville d'ailleurs et qui demain nous fait une conférence
cette à quelle heure?
À 5h.
Alors ce sera
difficile pour vous,
ce sera l'heure de la répétition pour le concert.
Ouais. J'aurais bien aimé venir.
Moi aussi.
Vous avez fait beaucoup de recherches sur les méthodes pédagogiques?
En fait, moi je suis pas du tout pédagogue, ça n'a rien à voir avec ça, mais non, je suis parti d'une idée, simplement. Donc, à partir de l'instant où on se dit la pédagogie appliquée en Inde est une hérésie et celle appliquée en France n'est pas bonne non plus, c'est quand même pas difficile d'acheter quelques bouquins et puis d'utiliser Google et de réfléchir sur le problème. Après, c'est assez facile de voir, de passer par Freinet, de continuer par Cousinet, en passant par Montessori et Steiner Waldorf. Bon, après, on rachète 3 bouquins ou 5, on va sur Google Vidéo, on écoute Krishnamurti, ça fait réviser son anglais et puis ça rend patient parce qu'il parle pas vite. C'est juste mon intérêt. Mais je suis pas du tout un technicien de la chose. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Bon, je sais pas trop ce que je sais très bien ce que je veux pas. Alors, quand on me propose clé en main à peu près ce que je veux, l'idée que je m'en fais, je me dis ça mérite de creuser. Bon, ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas trouvé en France ce qui me convenait. La difficulté en France, c'est que c'est des structures lourdes, c'est des NGO lourdes, qui avant de dire patate, on épluche 12 kilos. Mais je suis un tenace, j'ai pas lâché le morceau. Jusqu'au jour où j'ai découvert la méthode ABL, quoi. Et moi, je la connaissais, la méthode ABL. Parce qu'en fait, on avait fait la démarche de Richie Valley. On avait été voir ce qui s'y passait. Et j'ai pas tout de suite compris que. Mais dès que j'ai regardé la méthode, je me suis dit, mais c'est Richie Valley. C'est Richie Valley à petites ailes, parce qu'à petit budget. En plus de ça, il y avait des pédagogies. Quand on passe au screening, les pédagogies comme ça, Montessori, je pense séduisant sur le papier, c'est génial. Mais à partir du CP, ça marche plus, quoi. Mais il n'y a pas d'application pratique. Non, mais il n'y a pas d'application pratique.
Si, si, il y a beaucoup d'applications des écoles Montessori. Alors, en France, moi, je suis italienne. En Italie, il y a beaucoup plus d'applications de la pédagogie Montessori, même dans le public. En France, c'est surtout au niveau préscolaire et primaire.
Ici aussi. Ici aussi, il y a un arrêt. Il y a des tas d'écoles Montessori qui s'arrêtent, en fait, au primaire. Ouais. Bon.
Mais moi, je suis un peu préoccupée par les enseignants. Quel type d'enseignants vous allez appeler pour cette école? Parce qu'il faut les former, les enseignants.
Bah oui, non, mais ça c'est
ils vont
évident.
Arriver d'où?
Ah bah, ce sont des enseignants indiens, ça, à l'évidence.
Mais que vous formez comment à cette pédagogie?
Bah, qu'on formera en les envoyant. Voilà. La première chose, c'est que je ne me rappelle plus les diplômes, donc on prend des vrais enseignants. Alors, je ne sais plus quels sont les diplômes, j'en sais rien. Ils sont diplômés. Mmh. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on les recrute jeunes. Si on ne va pas recruter des gens qui ont 25 ans d'activité professionnelle.
Ouais.
Je pense franchement que ça va tellement remettre en question toute leur façon d'envisager la pédagogie qu'on aura beaucoup de mal à les convaincre et à être sûr de leur propre conviction.
Oui.
Je le connais en tant que professionnel, en tant que chef d'entreprise. Alors, rien n'est plus merveilleux comme Pat qu'un jeune ouvrier, parce qu'on l'amènera à quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, ça passera forcément par un apprentissage payant, on paiera le gouvernement indien, comme ça, de la méthode ABL. Et ensuite, ça passera aussi par...
Donc ça prend du temps.
Ça prend du temps, bien sûr, on est en recrutement à l'heure actuelle. Et ça passe par un stage aussi à Richie Valley, qui est beaucoup plus cher encore. Non, et ensuite, c'est un encadrement, c'est surveiller, puis c'est travailler ensemble. Puis c'est pas du tout dit qu'on... J'ai aucune raison de faire ni du Richie Valley, ni de l'ABL, ni du Montessori, ni du Steiner-Waldorf. Non, je crois que toutes ces méthodes qui sont extraordinairement proches les unes des autres, puisque c'est toujours...
Des méthodes actives, centrées sur
l'enfant. Tout à fait. Hein, Active Based Learning, c'est la méthode du Tamil Nadu. Bon, la méthode indienne, c'est des méthodes actives, c'est toujours pareil. Écoute, tu ne retiendras rien, vois, tu as des chances, fais-le, et ce sera gravé comme dans du marbre. C'est aussi bête que ça, hein, c'est pas plus...
Donc
tout le monde réfléchit de la même manière. Moi, ce qui me perturbait, par exemple, Steiner-Waldorf, c'est passionnant. J'ai lu plein de bouquins là-dessus, c'était vraiment fascinant. Ce qui me gênait beaucoup, c'est d'appliquer une forme de mystique sur une mystique préexistante. L'un des mystiques où elle n'est pas. Alors, aller chercher une mystique extérieure pour la plaquer sur une mystique préexistante, bon, ok, appliquer du Steiner-Waldorf en Angleterre ou en France, ça semble pas poser de problème. Mais il n'y a pas de mystique sous-jacente. En Inde, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais tout est pareil.
Pareil. Là, on se lance dans un débat.
Vous allez beaucoup nous apporter par votre réflexion, parce que c'est vrai que l'expérience est très utile dans ce domaine. Donc, on est sûrement, Lionel et Martine.
Si vous pouvez venir nous aider de temps en temps, vous êtes la bienvenue.
Moi, je n'habite pas ici. À Paris, mais je viens très souvent ici.
Vous êtes la bienvenue parce que vous participeriez à une expérience. En plus, on fait un pari un peu fou. Et là, on va être seul un petit peu à le faire parce qu'on a défini que les cours se feront en anglais. Et j'explique pourquoi
rien
ça se prend.
Tamoul,
ah non, il y aura des cours de tamoul qui sera évidemment la première langue. Le problème, c'est que ces enfants ne sont pas tamoulophones. Ils deviennent tamoulophones avec l'âge, puisque dans la rue, la langue véhiculaire est le tamoul. Mais comme dans la définition qu'on a, on va démarrer par la base. On va grandir avec les enfants. Donc chaque année, on aura peut-être 25 gamins de plus, quoi. Mais on va les emmener avec nous. Où ils vont nous accompagner. Enfin, je ne sais pas qui va accompagner l'autre, c'est pas tellement important. Mais donc, les gamins qu'on va voir ne sont pas vraiment tamoulophones. Alors, le tamoul, oui, parce que c'est indispensable pour leur vie ici, mais pourquoi leur imposer une langue?
Il faut qu'ils communiquent avec les autres.
Mais ils communiqueront avec les autres, ils communiqueront entre eux, ils communiqueront en anglais, ils communiqueront en tamoul. Alors, je ne sais pas comment on va faire, mais le problème, c'est que toute la méthode ABL, elle est déjà complètement fabriquée, structurée, avec tous les outils pédagogiques, tout en tamoul. où on a déjà un premier challenge, c'est de traduire et de transposer toute la méthode pédagogique en anglais. Mais peut-être qu'on va travailler un petit peu différemment.
Tu n'es pas contente.
Tu vois ?
Tu n'es pas contente.
Tu vois un petit peu.
Pourquoi ?
Alors, ce que je trouve dommage, c'est que dans tous les villages, beaucoup de villages, quand j'enseigne pendant 2 heures simplement à Eddy Amchavadi. Dans les écoles, ça va de 6 ans à 15 ans, en anglais. Tous les cours sont en anglais. Ce sont des villages tamouls.
Je leur poser, je suis d'accord. Hein,
c'est ce qu'ils parlent en tamoul chez eux, mais à l'école, c'est en anglais. Où va aller leur culture ?
Là, je suis complètement d'accord. Ça, c'est quand même important de protéger.
Oui, mais ceux-là n'ont pas de culture tamoule au départ.
C'est-à-dire, ils n'ont pas de culture tamoule.
Ils n'ont qu'un dialecte.
Non, mais ils n'ont pas une culture anglaise non plus.
Par contre, si on veut les ouvrir sur l'extérieur, nous, on a pensé, évidemment, l'alternative était aussi avec le français.
Moi, ça n'a aucun intérêt.
Je suis un défenseur, mais avec le français, ils n'iront nulle part ici. Donc,
ça
c'était.
Rien.
Mais le tamoul, il va être présent. Mais la langue qui peut les ouvrir, les deux langues qui peuvent les ouvrir, c'est le tamoul et l'anglais.
Mais d'abord, le tamoul.
Mais il y aura des enseignants.
Ah, bien sûr, mais ils sont tous les enseignants sont tamouls. Je ne sais pas trop comment on va faire. Ce que je sais, c'est. Parce que ce que je dis, alors ces enfants ne sont pas tamoulophones, donc l'ont imposé le tamoul et pas plus, ou l'anglais, c'est pas. C'est, je ne vois pas tellement de différence. Alors, préserver leur culture, alors ça, c'est un grand débat. Alors, quoi qu'on puisse penser de Mme de Blic, elle a fait quand même un gros travail qui peut être très, très intéressant. Non pas en pédagogie, puisqu'elle a toujours refusé de s'occuper d'enfants, autre que l'enfant a grosses difficultés, etc. Bon. Mais elle a travaillé avec les gypsies, justement. Et les gypsies, ils disent non, c'est l'une des raisons pour laquelle elle n'a pas voulu créer d'école avec eux. Mais non, il faut nous former des gypsies, disaient les parents. Ben, ça humanise nous, les gypsies, conserver leur culture. Qui conserve leur culture ? Bien sûr, moi je suis désolé, je suis né à la porte devant, j'ai ma culture de français, parisien, parigot, la porte devant, et je la garderai jusqu'à la fin de mes jours.
C'est important, non ?
Non, mais c'est tout à fait important, mais qui conserve leur culture ? Mais en tous les cas, c'est pas ma culture de parigot de la porte devant, ce qui m'a servi dans l'existence. Voilà. Mais elle fait partie de moi, elle fait partie de ma culture, il faut l'emmener avec soi. C'est ma valanche, quoi.
Des bâtards anglais, vous voyez, c'est ça.
Non, parce que s'ils sont anglais, on s'en sort pas.
Base solide, plus rien du tout. J'ai une amie qui enseignait à l'université.
On en fabriquera des bâtards tamouls.
Non, moi, ça sera leur pays. Ce ne sera pas l'Angleterre. Alors.
Mais c'est, le problème, c'est qu'au départ.
Mais c'est pas l'Angleterre. Mais je suis désolé.
Ils sont dialectophones. Ils ont un dialecte.
Ça, mais je suis d'accord.
Leur propre culture.
Je suis d'accord avec toi. Dans ce que tu dis, si on prend des gosses tamouls, c'est stupide de leur apprendre en anglais.
On parle d'enfants qui sont plus marginaux, qui sont bien plus isolés. Et pour eux, le tamoul, c'est.
C'est une langue étrangère. Et si on suit les parents, si on écoute les parents gypsies, ils disent fabriquez-nous des petits gypsies.
De toute façon, ce qui est évident, c'est que notre expérience, notre aventure, je dirais, cette aventure de l'aide aux populations les plus démunies ici, en Inde, elle repose sur l'expérience, elle est capable de changer de voilure. Exactement comme elle a changé de voilure et de cap quand on a commencé à fabriquer des bateaux avec eux, à leur faire fabriquer ensuite des bateaux, puis à les former à d'autres...
À changer de clientèle aussi.
À d'autres techniques, à d'autres savoirs. Et puis de se rendre compte qu'à un moment donné, le vrai enjeu, c'est l'enseignement et pour les faire sortir de cette spirale de misère. Et que quand on voit l'évolution en fait, que ça a suivi, elle n'est pas finie, cette évolution.
Donc elle va continuer.
Elle va se confronter au terrain, elle va se confronter à la réalité, elle va certainement encore évoluer et changer d'orientation parce qu'elle est capable de le faire. Parce qu'on n'est pas en train de fabriquer des structures en béton qui vont être du béton dans la tête aussi. Je pense que l'expérience a prouvé que c'était aussi évolutif et que c'était.
Moi, je suis marin, je sais à peu près où je veux aller, mais je ne sais pas du tout par quel côté je vais passer. Ça dépend du vent. Voilà. Bon, ce qu'on veut fabriquer, tout qu'on fait, le désir, la vision globale du truc, c'est d'essayer de fabriquer des hommes heureux. Des enfants heureux pour fabriquer des hommes heureux. C'est d'essayer de fabriquer des gens complets, des gens accomplis, des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui sont heureux de vivre, qui ont envie de continuer, de partager, de donner, de recevoir. Bon, c'est l'idée, parce que c'est l'idée que je me fais de la vie. Bon, et j'aimerais bien fabriquer des gens comme ça. Par quel biais je vais passer? Est-ce que ça va passer par l'anglais, par le gypsy, je ne sais pas comment ça, je ne me rappelle plus du nom de leur dialecte, par le tamoul ou le serbo-croate, j'en sais rien du tout. On se pose des questions sans arrêt. Et puis je suis sûr qu'on va changer la vie tout le temps. On va adapter le truc à la méthode. Mais en plus de ça, quand on fait un truc, on ne travaille pas, dans l'absolu, on ne travaille pas dans l'abstrait. On a les mains dans le cambouis, on a levé le capot de la bagnole. Et on est bien obligé de se débrouiller avec une clé qui est une clé impériale en et pas métrique, et il faut quand même retirer un boulon métrique. Et c'est comme ça la vie, je veux dire, elle est tout le temps comme ça. Donc là, on est en train de se poser des questions. On est en train de faire un recrutement. On s'aperçoit que de toute façon complètement stupide, l'Inde, quand on prend la jeune génération des profs, les gens qui ont fait tout leur cursus, je me rappelle plus, ils sont bachelor en éducation, on prend le top, on prend des gens au top. Ils sont tous scientifiques. Il n'y a pas un seul littéraire dans tous les gens qu'on trouve qui répondent à nos petites annonces qui viennent et qui ont un cursus qui rentre dans notre grille. Ils sont tous scientifiques. L'Inde a fabriqué des scientifiques, il n'y a pas un seul littéraire.
Vous avez des conseillers en termes d'éducation, de pédagogie
Non. Alors là, nous, on fait tout, tout au feeling avec...
Il faut quand même faire un peu attention parce que c'est de la matière humaine.
Oui,
c'est pas des bateaux avec tous les respects pour les bateaux.
Non,
on
c'est
prend
pas
des
ça.
Petits. J'imagine que vous commencez par le kindergarten, même le
bien
scolaire.
Sûr, bien sûr.
Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous quand vous dites que le but, c'est de former des êtres humains heureux et qu'on oublie ça.
C'est qu'à ça. Hein.
Donc, moi, ce que j'ai vu à Auroville, ce sont des gosses heureux. Notamment ce qui sont dans les écoles du libre progrès où on suit des rythmes qui sont beaucoup plus lents et beaucoup plus adaptés et centrés à l'enfant, où par exemple il y a des endroits, des classes qui sont des classes scientifiques ou des classes littéraires, donc les enfants se déplacent dans les classes, donc, mais vous avez des exemples de tout type ici à Auroville, hein, donc l'école Ludavie aussi fait des expériences merveilleuses qui sont basées sur cette idée qui est la même de Poussinet, Montessori, Steiner, Krishnamurti, tout ce que vous voulez, de l'enfant comme un tout, un être global. Donc c'est ça qui est
absolument
important. C'est ça qui est important. Après, si vous utilisez une méthode ou l'autre, peu importe, ça suffit qu'il y ait une sensibilité de l'enseignant qui est là et qui est...
Oui, c'est la sensibilité
de l'enseignant.
Il faut
qu'il à une approche ouverte, d'ouverture. C'est-à-dire
absolument.
Ça doit être... Quelqu'un qui considère l'enfant dans toutes ses composantes.
Non mais attends, moi je suis là avec mon frère. Hein.
Oui, non mais je pense que...
Pas pour les gosses, mais pour les profs.
Je pense qu'il faut que vous vous entourez quand même de quelqu'un qui vous conseille du point de vue
mais oui,
pédagogique.
Oui, mais qui, quand, comment? Qui, quand, comment? Par qui? Comment je le paye? Où je le trouve? Comment il va venir? C'est hyper compliqué. Alors, welcome! Welcome, venez me voir 4 fois par an, venez passer quelques jours avec nous et recadrer. Bon,
moi je fais vous voulez si vous.
Mais
moi,
non,
je
mais
je
avec grand
aider,
plaisir.
Mais
avec très
ici,
grand plaisir. Non mais je dis, avec très grand plaisir.
Stable,
vous savez, ce qu'on fait rien, ce qu'on fait. Et quand on fait, on n'a pas forcément tous les biscuits qu'on aimerait avoir dans son sac. On n'a ni les financements, ni... On fait comme on veut. Ou alors on ne fait pas.
Demain soir.
On fait... Non, je veux dire, c'est assez clair. Hein. Faut se dire.
D'autant qu'on a dit aux gens, l'entrée est gratuite, on donne ce qu'on veut.
Ça, c'est très bien.
Ah oui, ça, c'est très, très bien.
Voilà. Et donc, c'est entry on donation.
Mais vous allez faire le même concert peut-être en France?
Non, c'est un concert unique.
Vous
moi, je donne des concerts en France, mais je mélange pas les gens. C'est-à-dire que je ne fais pas des concerts pour ma propre cause. On a organisé tout à fait au début 2 concerts en Bretagne pour que les pêcheurs aident les pêcheurs. C'est-à-dire ces 2 concerts ont rapporté de l'argent qu'on a envoyé à l'association. Mais ça a été 2 concerts qu'on a organisés de fond en comble, vraiment du début à la fin, qui ont été très heureux parce que c'était 2 concerts, je dirais, uniques. On a fait 2 fois ce concert et on ne l'a plus refait jamais. Et donc
pourquoi
les gens.
On ne ferait pas une école qui a une école.
Mais parce que ça, on va le faire aussi.
Ouais.
Parce qu'on a reçu un. Vous savez, moi, je suis maire de ma commune en France.
Vous êtes où?
Je suis à Précy-sur-Marne. Vous connaissez Barbara, la chanteuse?
Oui.
Eh bien, c'est là qu'elle vivait.
Ah ouais.
C'est la ville de Barbara. Et mon épouse, Noël, qui est maire adjoint, est présidente des 3 écoles. Elle s'occupe de l'enseignement.
Les familles et les enfants.
Les enfants sont professeurs. Non, je plaisante. Et donc, on a reçu un email de la directrice de notre école, de Précy, hier. On lui a envoyé les premières photos de l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Elle a dit, ça sera une magnifique école. Est-ce qu'il y aura une adresse email? Est-ce qu'on pourra établir un lien entre nos deux écoles pour que les enfants communiquent? Ça, juste, il y a des gens qui se trompent mais qui n'arrivent pas à le dire. Et il y a des gens qui veulent laisser croire que la vie politique, que la vie économique, que la vie sociale est une espèce de long fleuve tranquille où tout le monde fait exactement ce qu'il faut et que tout est sous contrôle. Et puis, en fait, l'expérience, c'est pas tout à fait ça. Et on se rend bien compte que il y a des chemins, il y a des voies qui s'ouvrent, il y a des erreurs qui ferment d'autres chemins. Et fermer un chemin, c'est aussi important que d'en ouvrir un autre. Donc forcément, l'avenir n'appartient qu'à ceux qui font quelque chose et qui prennent le risque de se tromper. Mais il y a beaucoup de gens qui ont tellement peur de se tromper qu'ils n'agissent plus. Et c'est une des grandes maladies de notre siècle et de notre époque, c'est cette inaction qui est due à la méfiance, qui est due au fait qu'on n'ose pas parce qu'on a peur de se tromper. Enfin, voilà. Se tromper, c'est aussi une façon d'éliminer une voie en sachant définitivement que ce n'est pas la bonne.
Et on ne contestera jamais un enseignant d'éducation nationale française qui a saboté systématiquement, qui est professeur d'une matière, qui a donné la haine de cette matière à des générations complètes d'étudiants et qui arrivera tranquillement à la retraite et qui ira pêcher la ligne après. Bon, alors je suis désolé. Alors,
mais il n'y a pas un poisson qui va le mordre.
Si, il va mordre le prof, j'espère, et pas l'hameçon. Non, mais c'est ça que je veux dire. Donc, attends, ouais, on va peut-être qu'on va faire des bêtises. Et je suis sûr qu'on va en faire. En tous les cas, il y a une chose que je peux vous promettre. Nos bêtises, on les fera de bonne foi.
Alors faisons-les ensemble.
Non, c'est ça.
On aidera à les faire.
Hein, non, aidez-nous, on les fera de bonne foi. Et c'est sûr, moi je suis sûr, en tous les cas, on fera un maximum pour pas casser les gamins, pas casser leurs rêves, pas casser leur ouverture, pas casser... Un gamin, c'est une éponge, c'est énorme, c'est un trou béant ouvert sur la connaissance.
Oui, je voulais vous dire que, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de vouloir essayer de détecter quel est le rêve d'un enfant, c'est peut-être la chose la plus difficile qui soit. Et c'est, j'ai tourné autour de ça, longtemps, avec l'idée d'une chanson. Et j'ai fini par écrire cette chanson qui essaye d'exprimer justement les limites qu'il peut y avoir entre l'amour qu'on éprouve pour un enfant et le fait de le guider dans la vie et le fait d'essayer de savoir ce qu'il a envie de faire et de le conduire sans lui tracer sa route. C'est une chanson qui me tenait beaucoup à cœur autour de l'idée du chemin. Je l'ai écrite, cette chanson, donc je voulais vous dire que je peux vous la chanter parce que j'ai amené ma guitare.
Avec plaisir.
Oui.
Alors là, avec plaisir.
Assis près du grand saule au milieu du jardin, comme à tes premiers jours penché sur ton couffin, quand je perçais tes rêves à la tombée du soir, j'essaie d'imaginer le cours de ton histoire, les lignes de ta main. Si j'étais ton chemin, je me ferais discret dans l'ombre de tes pas, pour t'aider à grandir et pour t'ouvrir la voie. Je serais la poussière qui s'envole à tes pieds, un peu de mon bonheur qui colle à tes souliers. Je t'aimerais au point de te lâcher la main, pour que tu sois le seul à choisir ton destin, à dessiner ta route en puisant au hasard les raisons d'espérer et la force d'y croire. Si j'étais ton chemin, je construirais des ponts, des tunnels, des ouvrages, j'ouvrirais des sentiers partout sur ton passage, pour que tu puisses aussi t'écarter quelquefois des pistes balisées qu'on a tracées pour toi. Je t'apprendrai les mots pour soigner les blessures, les signes éparpillés le long de l'aventure, te montrer le nord quand tu te crois perdu, les silences attendris de ceux qui ne sont plus, et qui tiendraient ta main. Si j'étais ton chemin, j'irais cueillir ton rêve au plus fort de la nuit, le planter dans la terre et l'inonder de pluie, de lumière. lumière d'amour, au soleil de midi, pour que tu rêves encore chaque jour de ta vie. Je ne t'épargnerai ni le temps ni l'effort, pour que tu sois debout devant les coups du sort, solide et résistant face à l'adversité, riche de ton courage et de ta liberté. Et je déposerai quelque part une pierre pour te laisser t'asseoir, offrir une prière à tous ceux dont l'histoire t'a mené jusque-là, et pour ceux qui suivront la trace de tes pas. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, et nous serions semblables aux bulles de savon qui font la route ensemble et puis qui se défont dans le même courant, chacun de son côté, mais sans aucun désir au fond de s'éloigner. Je m'effacerai comme un sentier se perd, en refaisant parfois le chemin à l'envers. J'aurai le sentiment d'avoir rempli mon rôle, et je m'endormirai à l'ombre du grand saule, où je berçais sans fin le début de ta vie, au-delà des bonheurs partagés en commun. Saurais-je alors enfin si j'étais ton chemin? Si j'étais ton chemin.